Ainsi donc, nous aussi, qui sommes entourés d'une telle nuée de témoins, rejetons tout poids et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur celui qui est l'auteur de la foi et qui la porte à son accomplissement, Jésus. Au lieu de la joie qui était devant lui, il a supporté la croix, en ne faisant aucun cas du déshonneur, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré une telle opposition de la part des pécheurs contre lui-même, afin de ne pas vous laisser accabler par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée en tant que fils. Mon fils, ne prends pas à la légère l'éducation du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te traite durement. Car celui que le Seigneur aime, il l'éduque. Il fouette tout fils qui l'accueille. C'est en vue de votre éducation que vous souffrez. Dieu vous traite comme des fils. Quel est en effet le fils que le Père n'éduque pas? Si vous êtes privé de l'éducation à laquelle tous participent, c'est que vous êtes des bâtards et non pas des fils. D'ailleurs, nous avons eu nos pères selon la chair pour nous éduquer, et nous les respections. À plus forte raison, ne devons-nous pas nous soumettre au Père des esprits pour vivre? Cela, en effet, nous éduquait pendant peu de temps, selon ce qui leur semblait bon. Lui nous éduque pour nous aider, afin que nous ayons part à sa sainteté. Certes, toute éducation, dans un premier temps, ne semble pas sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle procure un fruit de paix à ceux qui ont bénéficié de son entraînement. Elle produit de la justice. Redressez donc les mains qui retombent et les genoux qui flageolent. Faites des pistes droites pour vos pieds, afin que le boiteux ne dévie pas, mais plutôt qu'il guérisse.
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait quelque temps que je n'ai pas pris la parole ici. Et la raison en est que j'ai traversé une crise personnelle assez carabinée qui m'a amené à demander aux anciens de me relever de cette tâche pendant le temps que je traverse ces difficultés. Aujourd'hui, je suis de retour, Dieu merci. Mais j'ai appris un certain nombre de choses pendant cette période, et je vais les partager le temps voulu. Ce matin, je voulais juste vous faire part d'un constat assez terrifiant que j'ai fait, qui m'a vraiment perturbé. C'est que je me suis rendu compte que nos cultes n'ont pas toujours grand-chose à offrir à ceux qui souffrent. En tout cas, quand moi j'étais là, j'ai vécu des cultes où j'avais vraiment du mal à raccrocher mes wagons à la caravane. D'autant plus qu'on disait parfois au début, laissez les soucis dehors. Alors, ça va très bien, mais quand vous n'êtes plus qu'un tas de soucis, qu'est-ce que vous faites? Vous restez dehors? Certainement pas, parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et où voulez-vous qu'ils aillent, les gens fatigués et chargés, si ce n'est là où il a promis qu'ils seraient, c'est-à-dire au milieu de ceux qui se rassemblent en son nom? Donc, je me suis dit, à la place qu'il m'a confiée, qui est certes pas très importante, mais quand même, il faudrait que moi, je contribue à ce que ça change un petit peu. Et donc, de temps en temps, je vais aborder ici des sujets qui intéresseront aussi, moi, je pense, ceux qui souffrent parmi nous. Et si ce n'est pas votre cas, écoutez quand même, parce que si je peux vous garantir une chose, c'est que le moment viendra où vous serez de leur nombre. Il y a des drôles d'évangiles qui circulent. Vous avez peut-être déjà entendu celui-là. On vous dit, tu vas pas bien? Eh bien, viens à Jésus, et il va arranger ça. Il va rendre ta vie belle, et épanouie, et merveilleuse, confortable. Viens à Jésus, et il s'occupe de tout. C'est l'évangile que j'appelle l'évangile du Jésus plombier. Celui qui vient vous dépanner. Il a un grand frère qui est l'évangile de la prospérité. Ça, c'est un évangile qui vous dit, venez à Jésus, il veut vous bénir abondamment. Il veut vous donner l'abondance spirituelle, mais aussi matérielle. Et si vous n'êtes pas bien portant et riche, c'est que vous n'avez peut-être pas assez de foi. C'est que vous ne revendiquez pas ce qui vous revient de droit. Venez à Jésus pour qu'il vous rende riche. Le problème avec ces évangiles-là, qui n'en sont d'ailleurs pas, le problème avec ces évangiles, c'est qu'ils se heurtent à la vie réelle. C'est que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que Jésus nous enlève tous les soucis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que Jésus nous rend forcément très riches. Je me demande d'ailleurs si un chrétien convaincu peut devenir riche, parce que amasser de l'argent dans un monde qui a de tels besoins, ça me paraît assez difficile à envisager. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas vrai que la vie du chrétien est une vie sans soucis, sans souffrance, sans besoin. Ce n'est pas vrai. J'en veux pour preuve, par exemple, l'histoire qu'on m'a racontée l'autre jour d'un frère anglais, un homme d'église assez remarqué, remarquable, grand prédicateur, qui a perdu en l'espace de 4 ans tous ses 3 enfants. Son fils aîné, 21 ans, il sortait d'une des meilleures facultés du pays. On posait on imaginait entrer dans d'énormes projets. 21 ans. On lui diagnostique un cancer. 6 mois plus tard, il est mort et enterré. Je pense à cette jeune femme qui est rentrée de la réunion de prière de ces dames à l'église et qui, en arrivant à la maison, sort son enfant de son siège de voiture et se rend compte qu'il est mort pendant le trajet de la mort subite du nourrisson. Je pense à cette jeune femme, Anna Maria, fiancée au fils aîné d'un de mes meilleurs amis, qui est pasteur, un homme de Dieu assez remarquable. Elle aussi, dans la petite vingtaine, elle vient de décéder d'un cancer. Et quand on voit ces choses-là, on peut se demander, mais comment est-ce possible? Ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu. Certes, la question du pourquoi, elle est dure pour tout le monde, mais je trouve pour le chrétien, elle a encore une saveur particulière, parce qu'il dit, pourquoi Seigneur? Comment est-ce possible? Est-ce que le chrétien n'a pas droit de s'attendre à ce que ce Dieu, à qui il a juré allégeance, s'occupe de lui? Le garde en dehors de ses souffrances écrasantes? Est-ce que la foi ne devrait pas nous isoler un petit peu par rapport à ces difficultés? Et c'est là que le texte de l'Épître aux Hébreux, qu'on a lu tout à l'heure, intervient d'une manière intéressante. Vous savez, les Hébreux à qui s'adresse cette épître, ce sont des gens qui souffrent. Ils souffrent de quoi? Ils souffrent de la persécution. Vous savez sans doute que l'Église, au départ, l'Église était un mouvement à l'intérieur de la synagogue, un mouvement juif. Tous les premiers chrétiens étaient juifs, à ma connaissance. Et pendant un certain temps, l'Église et la synagogue ont cohabité. Mais, comme vous le savez, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Et puis ça n'a pas pu se faire. Il y a eu des conflits, et puis finalement le divorce. d'un côté l'église, de l'autre la synagogue. Et aussi surprenant que ça peut paraître aujourd'hui, au départ c'était la synagogue la plus puissante, et c'est la synagogue qui a persécuté l'église. Nous savons que l'apôtre Paul a été un fer de lance de cette persécution, mais il y en a eu d'autres. Et les Hébreux à qui écrit notre auteur, ils subissent cette persécution, ils se rendent compte que la vie chrétienne, c'est difficile à supporter, tellement ils souffrent de la part de leur ancien co-religionnaire. Et ils sont tentés d'abandonner la foi chrétienne, de retourner au judaïsme. Et l'auteur va essayer de les empêcher de faire cette folie. Et au chapitre 11, bien connu, il présente toute une galerie d'hommes et de femmes de foi, des gens qui ont fait des exploits extraordinaires au nom de la foi. Et vers la fin de ce chapitre, il porte l'attention vers des inconnus, des anonymes, des gens qui sont morts, qui ont été persécutés, chassés de Jésus, fouettés, assassinés au nom du Seigneur et qui ont tenu bon. Et puis au chapitre 12, il va dire, mais maintenant vous courez devant cette immense nuée de témoins, de gens qui vous ont précédés et qui ont tenu bon. Et en plus, ça devrait être plus facile pour vous parce que vous pouvez maintenant fixer les yeux sur Jésus, alors que eux, ils ne pouvaient pas encore le voir. Et donc il leur dit, faites votre course jusqu'au bout, allez jusqu'au bout, tenez bon. Et puis, il va dire une chose assez extraordinaire. Il va vraiment lâcher une bombe. Et ça, nous l'avons lu au chapitre, au verset 5 de notre chapitre, où il dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée en tant que fils. Mon fils, c'est une citation des Proverbes. Mon fils, ne prends pas à la légère l'éducation du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te traite durement. » Est-ce que vous mesurez ce qu'il est en train de leur dire? Ce sont des gens qui subissent de plein fouet la persécution. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ne prends pas à la légère l'éducation du Seigneur. Ne te décourage pas lorsqu'il te traite durement. Vous rendez-vous compte? Il leur dit, ce que vous êtes en train de vivre, c'est l'éducation du Seigneur. Vu de l'extérieur, c'est la persécution. Vu de l'intérieur, c'est la souffrance. Mais vu de Dieu, c'est de l'éducation. Le terme que j'ai traduit ici par éducation, si vous regardez dans vos Bibles, vous trouverez peut-être un autre terme, le terme correction. Et c'est vrai que quand on lit le texte des Proverbes, c'est sans doute ce qui est à l'esprit de l'auteur des Proverbes. C'est le terme grec paideia. Paideia, ça vient du mot pais, qui est l'enfant. Et paideia, c'est donc l'action de former des enfants, de les mener à l'âge adulte. Vous avez ce mot aussi dans pédagogie ou pédiatre. C'est vraiment l'action de former les enfants. Et c'est pour ça que je crois qu'ici, dans notre contexte, la traduction éducation est préférable à celle plus connue peut-être de correction, parce qu'il me semble difficile dans le contexte qu'est le nôtre de parler de correction, au sens que il y aurait une faute qui est corrigée. Ces gens-là, ils se font mettre sous pression au nom de la foi en Jésus-Christ. Ils sont fidèles et c'est pour ça qu'ils souffrent. Et donc il me semble difficile d'utiliser ici le terme de correction. En revanche, le terme d'éducation me semble tout à fait convenir, qui est un peu plus large que la correction. Mais retenons pour l'instant ce point qui me semble crucial, que l'auteur leur dit, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est l'éducation du Seigneur. Et si vous êtes des lecteurs attentifs de la Bible, et on ne l'est pas toujours, mais si vous êtes des lecteurs attentifs, vous allez découvrir que c'est discrètement, mais certainement une constante dans l'enseignement biblique. Derrière ces malheurs qui nous arrivent, qui arrivent aux croyants, nous pouvons toujours voir, in fine, la main du Seigneur. Et comment en serait-il autrement dans un monde où Dieu est souverain? Hier encore, j'ai lu le psaume 105. Je vous invite à le lire un jour si vous avez le temps, où il parle de ce qui est arrivé à Joseph, vendu par ses frères en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Et vous regarderez comment le psaume 105 raconte cette histoire. C'est stupéfiant. Je pense aussi à cette parole que nous trouvons chez le prophète Amos, chapitre 3 de son livre, où il nous dit cette chose absolument terrifiante entre toutes, où il dit « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahvé en soit l'auteur ?» Rendez-vous compte ce qu'ils osent dire, ces prophètes. Et donc, ce n'est pas uniquement un problème qui est lié à la persécution, mais dans tous ces malheurs, que ce soit des bombes, que ce soit des cancers, des tumeurs, que ce soit toutes ces catastrophes qui peuvent atteindre une personne, quand c'est un enfant de Dieu à qui ça arrive, il peut voir derrière ces choses, et je crois même notre texte et les textes de l'Écriture nous l'invitent, il peut voir derrière ces choses l'éducation du Seigneur. Maintenant, il faut tout de suite que j'énonce certains garde-fous. Parce qu'on marche quand même sur un terrain très difficile, très glissant, et on a vite fait de commettre des erreurs. Premier garde-fou, on n'est pas ici sur un terrain de condamnation. Vous savez, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus lieu de parler de condamnation. Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix pour nous. Il est mort pour nous. Il a pris les foudres de la colère de Dieu. Il est devenu notre paratonnerre. Il a pris ça sur lui une fois pour toutes. Si vous êtes au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour vous. Relisez Romains chapitre 8. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus aucune. Donc on n'est pas ici sur un terrain de condamnation. Dieu ne se présente pas ici comme juge qui punit les ennemis. Nous sommes sur le terrain d'un père qui éduque ses enfants. Ça change complètement la perspective. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'on n'est pas sur un pur terrain de correction. C'est pour ça aussi que j'ai voulu modifier cette traduction qui me semble trop limitative. Tout ce que nous subissons dans notre vie comme souffrance en tant qu'enfant de Dieu n'est pas nécessairement lié à un péché particulier dans notre vie. Ça existe. Je ne veux pas nier l'existence de la correction de Dieu en ce sens. Si vous voulez un exemple biblique de cette réalité bien réelle, regardez la vie du roi David. David, homme selon le cœur de Dieu. Je n'ai jamais entendu un plus beau compliment pour un homme que celui-là. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais David n'a pas fait les choses à la moitié. David, quand il pêche plein pot. Vous connaissez l'histoire. David commet l'adultère. Il ne se contente pas de ça. Il veut ensuite, quand cette femme tombe enceinte, il veut filer le bébé au mari cocu. Et quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait assassiner. C'est quand même stupéfiant. Et quand Dieu le reprend pour cela, David accepte. Il ne résiste pas du tout. Il reconnaît sa faute. Il demande pardon à Dieu. Et il l'obtient. Il ne va pas être mis à mort comme l'exigerait la loi. Il échappe à cela. Mais Dieu lui dit, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Et si vous regardez la suite de la vie de David, c'est une suite de catastrophes. Relisez 2 Samuel, c'est impressionnant. Une catastrophe après l'autre, sur sa famille, sur son règne. Jusqu'à la fin de sa vie, David portera le poids de cette correction qui lui vient du Seigneur. Donc c'est une réalité qu'il ne faut pas mépriser. Mais tout n'est pas de cet ordre-là. Il existe aussi une souffrance qui est plutôt du domaine, je dirais, de, on va dire, de la prévention. Le cas le plus frappant, peut-être, c'est l'apôtre Paul. Vous savez, Paul a vécu des choses extraordinaires, il a vu des choses extraordinaires, il a eu des visions totalement époustouflantes. Et il y avait de quoi prendre la grosse tête. Et pour qu'il ne prenne pas la grosse tête, qu'est-ce qu'il fait ? Dieu lui envoie ce que Paul appelle les chardes dans sa chair. On ne sait pas ce que c'est sans doute un problème physique qui l'a beaucoup fait souffrir et qui l'a humilié. Donc Dieu, par cette souffrance-là, qui n'était pas liée à un péché de Paul, mais à quelque chose, justement pour éviter que Paul pêche, Dieu va lui envoyer une souffrance. Et donc on n'est pas là dans le domaine de la correction, on est dans le domaine de la prévention. On pourrait aussi citer le domaine de l'anticipation. Je veux dire par là que vous et moi, nous ne sommes pas censés être autre chose que des gens du voyage spirituel sur cette terre. Nous ne sommes pas appelés à trop nous ancrer aux choses de ce monde qui vont passer. Nous sommes invités à voir plus loin, à voir l'aspiration de ce qui va venir, de ce qui nous est promis et de ce qui va bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Mais il n'empêche, nous avons tendance à nous installer dans notre petite vie douillette, hein, surtout en Occident. On ne peut pas trop se plaindre, on n'a pas trop de catastrophes naturelles qui nous tombent dessus. Donc on est tenté de s'installer sous sa couette et de se sentir bien. Et de temps en temps, me semble-t-il, Dieu peut nous envoyer des choses qui nous perturbent dans ce fonctionnement, qui nous font sortir de cela, qui nous font réaliser qu'il y a autre chose et que finalement ce monde est fragile et vain. Il y a aussi, et je m'arrête là dans mon énumération qui n'est sans doute pas exhaustive, il y a aussi un aspect instruction. Je pense notamment à Jacob quand je parle de ça. Jacob, vous savez, c'est un homme magouilleur, un tricheur, un mauvais caractère. Et Dieu va le mettre à une dure école. Il va souffrir beaucoup. Et pas nécessairement des choses qui sont fortement liées à son propre péché, mais il passe par de mauvaises passes. Un point où vient un moment où Jacob capitule et il dit « Je ne peux pas m'en sortir avec mes magouilles. Il faut que je compte sur Dieu. » Donc vous avez tous ces aspects-là dans la souffrance et peut-être encore d'autres. Donc on a vu la correction, on a vu la prévention, on a vu l'anticipation, on a vu l'instruction. Et il se peut que votre souffrance soit rien de tout cela. Parce que nous avons aussi le livre de Job, qui nous montre quelqu'un qui souffre pour rien. Il souffre pour rien. Il est le champ de bataille entre Dieu et l'adversaire. Et la seule raison pourquoi c'est lui qui souffre, c'est que c'est un type exemplaire. Et c'est tout. Donc ça aussi, ça existe. Et ça doit vraiment nous inviter à ne pas nous prononcer, à ne pas catégoriser la souffrance d'autrui. Ça nous invite bien de déconvenus, parce que les amis de Job, justement, ils avaient dit « Ah, c'est un cas de correction. » Et ils avaient tout faux. La troisième remarque que je voudrais faire, avant de retourner un peu dans notre texte, la troisième remarque, c'est que même si cette souffrance nous vient de Dieu, elle n'est pas pour autant quelque chose de bon. Je veux dire par là, il ne faut pas l'aimer. Il ne faut pas la rechercher. Et on a tout à fait le droit, et c'est légitime, de demander à Dieu qu'il enlève. Et s'il vous envoie un cancer, c'est tout à fait légitime de vouloir guérir de ce cancer, de prier Dieu qu'il le guérisse et d'aller voir les médecins. Parce que cette souffrance est un moyen entre les mains de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose d'intrinsèquement bon. Le chrétien n'est pas appelé à être fataliste par rapport à ce qui tombe dessus. Il a le droit de demander à Dieu d'enlever cette souffrance. Et je crois que c'est totalement légitime de le faire. Mais ce qu'il s'agit de voir, c'est que cette souffrance nous vient de Dieu et que Dieu a quelque chose, peut-être, à nous dire par elle. Revenons à notre texte. Je n'ai plus beaucoup de temps, mais voyons quand même certains éléments de notre texte. Premièrement, il y a dans ce texte, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a deux exhortations qui sont assez complémentaires. La première, c'est justement au verset 5, nous l'avons déjà lu, « Mon fils, ne prends pas à la légère l'éducation du Seigneur. » Alors vous allez me dire, si c'est la souffrance, qui prend à la légère la souffrance? Ça n'existe pas. Peut-être dans votre Bible, la traduction ici serait « Ne méprise pas ». En fait, je crois que ce qui est visé ici, c'est « Ne prends pas la chose pour autre chose qu'elle est vraiment ». Parce que quand la souffrance nous tombe dessus, quand les mauvaises nouvelles arrivent, un de nos réflexes peut être de nous refermer, hein, de nous replier sur nous, de contempler notre souffrance, hein, d'être en circuit fermé devant cette souffrance. Et en le faisant, on rate en quelque sorte la bénédiction que Dieu a pour nous à travers cette offense. Hein? On ne veut pas l'entendre. On ne veut pas se mettre sur ce terrain. On reste dans notre souffrance. Hein? Et en faisant cela, peut-être méprise-t-on ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Deuxième exhortation, elle suit immédiatement après. Elle est beaucoup plus facile à comprendre. Il dit, ne te décourage pas lorsqu'il te traite durement. Ça, c'est vite fait. Quand la souffrance frappe à notre porte, de laisser tomber les bras, de se dire c'est foutu. Et là encore, ce n'est pas la bonne réaction. Ce n'est pas la réaction à laquelle Dieu s'attend. Deux exhortations donc, de preuves aussi, c'est intéressant, de preuves qui sont liées entre elles. Qu'est-ce que ça prouve quand Dieu envoie la souffrance dans notre vie? Et là, en fait, on a le verset 6. Car celui que le Seigneur aime, il éduque, il fait tout fils qu'il accueille. Aussi dur qu'elle est à entendre, cette parole nous dit deux choses. Premièrement, si Dieu vous traite de cette manière-là, c'est qu'il vous aime. C'est qu'il veut vous amener plus loin. C'est qu'il a une éducation pour vous, c'est qu'il s'occupe de vous, c'est que vous êtes un objet de son attention. Et deuxième preuve qui lui est proche, en fait, c'est que si ça vous arrive, vous savez que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Parce qu'un bâtard, on ne s'en occupe pas, le père l'ignore. Mais quand c'est un fils ou une fille, c'est là que l'éducation prend son sens. Et donc si vous êtes en train d'être éduqué par Dieu, c'est qu'il vous aime et c'est que vous êtes des siens. Et puis, regardons aussi les fruits de cette éducation, ou pour prendre le terme du verset 11, de cet entraînement. À plus forte raison, ne devons-nous pas nous soumettre au Père des Esprits pour vivre? Ce que Dieu vise pour nous, c'est la vie. Une vie plus pleine, plus proche de lui. Lui nous éduque pour nous aider afin que nous ayons part à sa sainteté. Certes, l'éducation, elle procure un fruit de paix à ceux qui ont bénéficié de son entraînement. Elle produit de la justice. Donc ce qui est au bout du chemin, c'est tout cela. C'est la vie, c'est la sainteté, c'est la justice et la paix. Donc le projet de Dieu, en fait, il vise toutes ces choses-là. Et s'il nous fait passer par des mauvais moments, s'il nous envoie ces moments, parce que c'est de lui que nous pouvons les prendre, c'est qu'il veut nous amener sur ce terrain-là. Les Hébreux allaient affronter des temps difficiles. Ils allaient devant beaucoup de souffrances, sans doute encore. Et il fallait qu'ils tiennent bon. Et le texte que nous venons de voir, il était destiné à les aider, à leur donner du réconfort, d'avoir une lecture autre des événements que ceux que leur proposait leur compréhension immédiate. Et je crois que pour nous c'est pareil. Ce texte-là, dans des moments durs, il peut nous ramener sur un terrain de consolation. En tout cas, c'est mon cas. J'ai besoin d'entendre ça de temps en temps, et peut-être vous aussi. Je voudrais terminer avec une parole de Jean Calvin. Jean Calvin, vous savez, c'était un grand théologien, mais vous ne le savez peut-être pas, c'était aussi un grand migraineux. Et Dieu sait qu'au XVIe siècle, la pharmacopée n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Et quand Calvin a eu une de ces crises redoutables de migraine, et ceux qui ont vécu ça savent ce que c'est, quand Calvin a vécu une de ces crises écrasantes, il a dit la chose suivante, et j'aimerais bien que cette parole devienne nôtre, que vous la connaissiez et que vous vous en souveniez quand le moment dur viendra. Calvin a dit, « Tu me piles, Seigneur. Tu me piles, Seigneur. Mais il me suffit que c'est de ta main. »